Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Véronique Rigolet.
Bonjour à tous, bienvenue dans Mardi Politique. C'est l'ancien ministre, actuel député maire UMP de Nice, Christian Estrosi, qui nous accompagne ce soir sur RFI. Bonsoir Christian Estrosi.
Bonsoir.
Pour vous interroger à mes côtés, Roselyne Fèvre de France 24 et Christophe Forcari de Libération. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors nous reviendrons dans la deuxième partie de l'émission sur l'onde de choc des attentats de Copenhague. Mais pour commencer, c'est bien sûr le passage en force du gouvernement sur la loi Macron qui fait l'actualité ce soir au terme d'un après-midi de crise à l'Assemblée. Face à l'hostilité de ses frondeurs, le Premier ministre Manuel Valls a donc choisi, avec le feu vert de l'Élysée, d'utiliser le fameux 49-3 pour imposer la loi sans vote des députés. On écoute le Premier ministre.
Une majorité existe vraisemblablement sur ce texte, mais elle est incertaine. Dès lors, et c'est ma responsabilité, je ne prendrai aucun risque. Je ne prendrai pas la responsabilité du risque d'un rejet d'un tel projet que je considère comme essentiel pour notre économie. J'engage donc la responsabilité du gouvernement. Engager le pays dans la voie de la réforme, c'est la mission de ce gouvernement sous l'autorité du président de la République. Et je le dis à chacun dans l'hémicycle, avec la plus grande clarté et la plus grande détermination, parce qu'il en va de l'intérêt de notre pays. Rien ne nous y fera renoncer, rien ne nous fera reculer. C'est l'intérêt des Français qui nous commande d'agir ainsi.
Voilà, Manuel Valls qui passe en force face à l'affront d'une partie de sa majorité. Christian Estrosi, vous étiez dans l'hémicycle cet après-midi. Le Premier ministre n'avait véritablement pas d'autre choix que ce recours à la force.
En tout cas, ce n'est pas une mesure habituelle.
La dernière fois, c'était il y a 9 ans.
Du recours à la force, ouais. C'est un coup de force.
C'était vous.
C'est un coup de force, tout simplement. C'est un coup de force dans une mesure qui n'est pas habituelle. Jamais le gouvernement... ni de François Fillon, ni de Nicolas Sarkozy ne l'avait utilisé. Et alors, ce qui est lié à d'extraordinaire, qui confirme bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de majorité au sein du gouvernement, au sein du Parlement, pour voter les mesures proposées par le gouvernement, c'est que vous avez à la fois un Premier ministre qui avait annoncé lui-même que cette loi que proposerait M. Macron serait une loi emblématique pour la relance de l'économie, de la croissance, etc. Et d'un autre côté, le talentueux, entre guillemets, M. Macron, que l'on présente toujours sous des airs extrêmement généreux, d'homme d'expérience, de la finance, de banquier, etc., le matin, mais qui s'est montré pendant ces 3 semaines complètement perdu dans un univers politique qui n'est pas le sien, désemparé, agressif, violent, aussi bien avec des parlementaires de l'opposition que de la majorité, faisant du bricolage, allant de reculade en reculade, sans se renier et en s'entêtant sur un certain nombre de mesures. C'est son premier texte, c'est sa première loi. Ce matin encore, sur une radio, il disait « Je suis peinard, j'ai une majorité ». Cet après-midi, le Premier ministre est obligé de sortir le 49-3 et en quelque sorte de désavouer complètement M. Macron. M. Macron est désavoué ce soir.
C'est un aveu d'impuissance du gouvernement.
C'est d'avoir fait de M. Macron un homme totalement inexpérimenté, un ministre de l'économie et de l'industrie, quelqu'un qui est apparu comme totalement incompétent dans cette affaire, et en plus comme quelqu'un d'inadapté au débat politique, sans aucune rondeur, sans aucune capacité de dialogue, sans aucune capacité de diplomatie avec aussi bien des partenaires sociaux que les autres formations politiques.
À vous entendre, Christian Estrosi, la seule faute, c'est celle de Macron qui était trop vert pour faire
du bizutage.
Une telle réforme.
Ah oui, ça, pour du bizutage, c'est du bizutage. Et puis, il n'a pas été loupé, hein.
Roselyne Fèvre.
Mais moi, j'aimerais quand même vous poser une ou deux questions, Christian Estrosi. Est-ce que, quand même, ça ne pose pas la question de la capacité réformatrice de la France? Et là, je dirais que tout le monde a une responsabilité. Je comprends que vous fassiez votre job d'opposition, mais j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes contre l'ouverture de 12 dimanches au lieu de 5? Et d'une?
Je vous répondrai. Je suis pour 52 dimanches.
Vous êtes pour
52.
Oui, d'accord.
Tous les dimanches.
Mais non, mais c'est vous pas posez une question.
Va... Non, mais la gauche, les frondeurs disent non, ça va pas assez loin. Vous vous dites ça va trop loin. Vous vous dites ça va pas assez loin. Mais est-ce que c'est une raison pour pas la voter?
Mais
si vous êtes d'accord,
je me demande. Est-ce que je peux rappeler simplement?
Oui.
Vous savez, pour que les Français comprennent, que ce soit les foyers fiscaux, les classes moyennes, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, une loi, ça doit être identifié, ça doit incarner un cap, une ligne de conduite, une ligne politique.
Vous étiez, mais là, vous pourriez dire vous c'est étiez, un bon début.
Mais c'est pas un bon début quand vous faites un fourre-tout qui est du bricolage en 200 articles qui n'ont rien à voir les uns à côté des autres.
Oui. Par exemple, Jean-Christophe Fromentin, ancien chef d'entreprise avant de passer à la politique, dit « Moi, je voterai cette loi. Elle est certes timide, elle ne va pas assez loin, mais elle va déjà dans le bon sens. » Est-ce que, pour rebondir sur ce que disait Roselyne Fèvre, est-ce que là, vous ne... une partie, le PS et l'UMP ne bloquent pas toute velléité réformatrice dans ce pays, premier point. Et deuxième point, est-ce que cet appel à voter contre cette loi n'a pas été un simple, disons, un sursaut d'opportunisme, d'opportunité, voulez... voyant que le gouvernement était déjà mal en point.
C'est une loi mauvaise pour notre pays. Vous avez des économistes même qui disent que c'est des dispositions pouvaient mener notre pays à une catastrophe économique encore plus forte que celle que nous connaissons. Vous me parlez d'un chef d'entreprise. Je suis PDG d'une entreprise de 11 500 salariés. Où on pratique 163 métiers. Vous croyez que avec l'expérience qui est la mienne, gouvernementale, j'étais un des prédécesseurs de Monsieur Macron. Vous rendez compte, il est ministre de l'Industrie. Nous savons que les seules conditions pour relancer la croissance dans notre pays, c'est l'innovation, c'est la production, c'est la recherche et le développement. En 200 articles, il n'y a pas une seule mesure pour la production, l'innovation, la recherche et le développement. Allez y comprendre quelque chose. Et il n'y a que des mesures pour combler les dettes de l'État. Est-ce que vous pouvez me dire, quand on discute l'article 47, l'article 48, l'article 49, article 47, vente de Dexter, c'est-à-dire une des plus grandes industries de chars d'assaut français à des Allemands. Article 48, la vente de FSB, c'est-à-dire une filiale du don du sang où on produit des dérivés du sang. C'est pas n'importe quoi, c'est le corps humain, c'est l'être humain, c'est du plasma à du privé, vendu à du privé. Et l'article 49, la vente de deux plateformes aéroportuaires régionales et internationales, la deuxième et la troisième de France après Paris, c'est-à-dire Nice et Lyon. Est-ce que vous pouvez me dire le rapport qu'il y a entre le 47, le 48 et le 49, à part essayer de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État pour boucher ses dettes? Ce sont des mesures de relance de la croissance ou ce sont des mesures pour combler les dettes de l'État? Expliquez-moi.
On parlait il y a un instant d'un aveu d'impuissance du gouvernement qui a donc dû passer par la force. Est-ce que cela ne sonne pas le glas de toute possibilité de réforme économique dans ce pays, en tout cas jusqu'à la fin du quinquennat? Est-ce que c'est pas là le grand risque?
Le grand risque, c'est de ne pas prendre, de ne pas avoir le courage de faire de vraies réformes structurelles. C'est de ne pas aller vers une vraie politique qui crée de la croissance.
Mais après cet épisode du 49.3, est-ce que le gouvernement pourra encore prendre le risque de présenter un texte de réforme qui vaille le coup, qui est l'ampleur, en tout cas, réclamée par Bruxelles pour sortir un pays qui n'a pas de croissance et qui a plus de 5 millions de chômeurs?
Ça fait deux ans que je suis le premier à dire, moi je suis un homme qui veut défendre l'intérêt général pour mon pays. On est dans une crise économique extrêmement difficile. Allez, avant l'arrivée de M. Hollande, les choses n'ont pas été toutes simples. On n'a pas tout réussi. Avec l'arrivée de M. Hollande, qui la main sur le cœur avait dit, il n'y aura plus de chômage, il n'y aura plus de plans sociaux, etc., on est allé encore plus fort dans la montée du chômage. On est à 380 000 chômeurs de plus. Et j'ai dit pourtant à plusieurs reprises, acceptez le principe, je suis contre tout gouvernement d'union, d'accord, mais que on mette autour de la table quelques parlementaires de la commission des finances ou de des affaires économiques, où nous soyons une dizaine d'un côté, une dizaine de l'autre, à nous mettre d'accord sur trois grandes mesures pour notre pays qui nous donnent une chance de relancer la croissance. Je suis pas quelqu'un d'obtus, Hein, je l'ai proposé plusieurs fois. On peut être capable de le faire pour l'intérêt de notre pays. Eh bien, vous avez continué à avoir d'abord les premières années, vous le savez, une main tendue vers Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche en essayant de sauver les branches les plus à gauche, plutôt que de prendre des mesures économiques sensées. Et après, on a basculé vers un autre extrême de l'autre côté, qui était encore un non-sens économique. Donc, aujourd'hui, je ne peux que dire une chose, allez, tirons un constat. Prenons des mesures en matière d'innovation, baissons les charges qui pèsent sur les entreprises, redonnons-leur de la compétitivité, mettons en place un plan
quand le gouvernement se fait retoquer sur une loi dont même le président disait elle n'est pas révolutionnaire, dont vous dites c'est un fourre-tout, c'était pas suffisant, comment pourrait-il aujourd'hui avoir les moyens d'entreprendre
une plus grande réforme
encore, celle que vous appelez de vos voeux maintenant?
Réformons le code du travail, il y a 3400 pages. Je propose qu'on en écrive
un
en 100 pages. Je propose qu'on écrive un code du travail en 100 pages avec la baisse du coût du travail, la suppression des seuils dans les PME, l'indexation du coût de l'assurance chômage sur le nombre de licenciements des entreprises, le contrat de travail unique, remettre en cause les 35 heures et défiscaliser les heures supplémentaires. Et pourtant, c'est des sujets que j'ai entendu quelquefois les socialistes aborder. Pourquoi on peut pas se mettre d'accord autour d'une simplification du code du travail
ensemble? Pour le moment, la seule proposition de l'UMP, hein, c'est donc ce dépôt d'une motion de censure qui sera discutée jeudi. À quoi ça va servir concrètement? Ça fait partie du jeu, mais à quoi ça va servir?
Elle a quand même
aucune chance de renverser le gouvernement.
C'est pas faire partie du jeu. Il faut mettre quand même la majorité en face de ses responsabilités. La majorité n'est pas capable de dégager
une majorité. En tout cas, sur ce
texte-là. Sur un texte de loi. Si la majorité accorde sa confiance au gouvernement dans la motion de censure, elle se contredit par rapport au vote qui aurait pu être le sien aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le 49-3. Il faut qu'elle soit cohérente, cette majorité, et qu'elle dise peut-être... En même temps, en votant cette motion de censure au président de la République, il est temps que vous preniez des mesures qui inversent le cours des choses.
Vous souhaitez la démission de Manuel Valls du gouvernement?
Vous savez, moi, je suis...
C'est ça que ça veut dire.
J'appartiens pas à la catégorie de ceux qui demandent des têtes. Ça n'a pas de sens. Je veux qu'on fasse avancer mon pays. Je veux qu'on le sauve.
Mais justement, et pourquoi vous... J'ai l'impression que vous faites de la petite politique. Pardonnez-moi. Vous opposez...
Vous pensez que les sujets que je viens d'évoquer, c'est
non,
la petite politique?
Non, vous opposez. Les frondeurs s'opposent parce qu'il y a le congrès socialiste, tout le monde le sait. Solferino parle à Solferino.
Je ne suis pas membre du Parti socialiste, donc vous savez, je ne suis pas...
Mais vous me disiez...
Ça, c'est un message que vous envoyez à gauche, mais pas chez moi.
Non, bon. Mais j'entends bien, mais chacun voit ses intérêts. Ma question est, tout à l'heure, vous me dites, sur les dimanches, vous êtes d'accord pour 52 dimanches travaillés, mais vous me dites, c'est pas assez. La seconde question, pardonnez-moi, je suis têtu, mais par exemple, libéraliser le transport en autocar. Nice, en plus, Nice, il y a beaucoup d'autocars, puisque de Nice, on va à beaucoup d'endroits. Ouais. Est-ce que vous êtes contre, par exemple?
J'adore cette question, Roselyne Fèvre, j'adore.
Excusez-moi, c'est une question concrète, bête.
Je vais y répondre concrètement.
Vous trouvez ça?
Pas bien
pour les Français qui n'ont pas assez d'argent pour prendre le TGV.
Je vais y répondre concrètement. Lorsque M. Macron m'a répondu, puisque c'est au journal officiel sur le sujet, j'ai dit, Monsieur Macron m'a dit, vous savez, il y a des endroits, il y a le TGV qui ne va pas rejoindre tel lieu géographique de la France. Donc, l'autocar, ça peut régler des problèmes. Ah, j'ai dit, merci Monsieur Macron, vous êtes en train de m'expliquer que là où ça fait 30 ans que j'attends le TGV entre Marseille et Nice, vous allez me proposer qu'on continue à aller en autocar de Marseille à Nice. C'est très concret.
Vous votez pas parce que vous voudriez un TGV.
En ce qui me concerne sur l'autocar, hein, peut-être que vous connaissez un peu ma région, vous savez, entre l'aéroport de Nice pour monter à Oron, Roselyne Fèvre, on paye 1 € le ticket de transport. 1 €. Il n'y a pas un seul autre territoire de France où, en matière de pouvoir d'achat, je permette, sur mes lignes de transport dont je suis le gestionnaire, que l'on apporte, quelle que soit la destination que l'on fasse, une tarification unique. Mais vous n'allez pas me faire voter 200 articles... Parce que il y a un article sur lequel, bien sûr qu'il y a 4, 5, 10 articles dans cette loi avec lesquels je me sens en parfaite conformité. Vous me parlez. Mais pour ces 10 articles, je dois voter les 190 autres.
Quand Valls...
Qui vont mettre à plat l'économie de mon pays. Vous me parlez de 5,
on aura bien compris.
7 ou 12 dimanches. Mais je me dis, mais les gens qui sont au chômage, les gens qui sont au chômage, ou ceux qui nous regardent de l'autre côté de nos frontières, et qui voient le Parlement français se disputer pour savoir s'il faut accorder 5 dimanches, 7 dimanches, 12 dimanches, ils doivent nous regarder comme des zozos en train de se dire, mais ils sont fous ces Français.
Manuel Valls,
ils sont fous. Franchement, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce qu'un grand pays peut en être à se chamailler sur entre 7 et 12 dimanches?
Quand Manuel Valls rappelle dans l'hémicycle que de toute façon, voilà, il n'y a pas d'alternative à cette majorité, puisque la droite ne serait pas en mesure aujourd'hui d'en proposer une, on ne peut pas totalement lui donner tort non plus?
Il y a des élections législatives demain, je suis convaincu que la droite les gagnerait.
La droite est prête à gouverner
Qu'elle est prête à gouverner. Bien évidemment.
Christophe Forcaré.
Donc concrètement, aujourd'hui, vous dites, il n'y a qu'une seule porte de sortie pour ce gouvernement sans majorité stable et efficace, c'est une dissolution. Et le retour aux urnes. Le retour devant les électeurs.
Mais c'est une responsabilité qui appartient au président de la République. Aujourd'hui, c'est lui qui est en situation d'échec. C'est lui qui, après 2 ans et demi de gouvernement, n'arrive pas à avoir de majorité stable, n'arrive pas à faire les réformes qu'il propose et qu'il porte. On va quand même pas reprocher à l'opposition de s'opposer sur des textes qui n'incarnent pas les idées, les valeurs, le modèle économique et social que nous voulons pour notre pays. C'est à la gauche de se l'auto-reprocher elle-même, c'est pas à nous de nous le reprocher.
Vous avez dit tout à l'heure, je ne suis pas favorable au gouvernement d'union nationale, ça s'est pratiqué dans d'autres pays d'Europe, et notamment en Allemagne, on a vu que ça avait donné des résultats. Est-ce que là, vous n'êtes pas finalement gauche?
Mais j'ai dit quelque chose de plus fort, j'ai dit qu'on était prêt à se priver de gouverner.
Et vous avez dit, on est prêt même à se mettre autour de la table pour discuter autour de grandes idées.
Mais à soutenir des mesures
qui peuvent être travaillées dans un
principe de dialogue et d'unité, parce qu'elles seront des mesures d'intérêt général pour notre pays. Donc c'est encore plus noble que de demander à exercer une responsabilité gouvernementale que de proposer ça, me semble-t-il.
Mais est-ce que là, aujourd'hui, vous n'êtes pas un peu dans des postures et dont on peut se demander à qui, finalement, électoralement, elles vont finir par profiter? Après les débats que vous avez eus au sein de votre propre parti sur le Nini, le Front républicain, aujourd'hui, on a l'impression d'un affrontement purement politicien, avec des discordances au sein de votre propre camp. Est-ce que tout ça redonne une bonne image de la classe politique dans son ensemble?
Non, vous avez raison. Ça n'est pas la plus belle image de la classe politique. C'est pour ça que quelquefois je la regrette à l'intérieur de ma propre formation politique, vous savez. C'est pour ça qu'il est bien agréable d'ailleurs d'être plus maire de sa ville et d'une grande ville et président d'une grande métropole que de se revendiquer comme étant la pratique d'un parti politique. Parce qu'au moins chez moi, je ne fonde pas mes politiques de croissance, d'investissement, de développement, d'attractivité du territoire sur une idéologie politique. Pourquoi, lorsque je suis candidat, je rassemble autour de moi plus qu'une large majorité, et lorsque nous sommes dans une élection nationale ou européenne, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Ça montre bien que d'ailleurs le mandat dans lequel les Français se reconnaissent le plus, c'est celui de la proximité, c'est celui de maire. C'est celui qui est le plus respecté. Et plus on s'éloigne, plus on voit qu'on est dans des débats d'apparatchik à l'intérieur d'un appareil politique, et plus ils se détachent de la politique. Voilà pourquoi, là aussi, je dis, dépoussiérons tout cela, nos partis politiques tous, le PS, le FN,
on va avoir l'occasion
où on se succède
de
père en fille, l'UMP, sont dépassés aujourd'hui. Je demande la transformation de ma propre formation politique.
On y revient dans un instant, et sur la refondation de l'UMP, dans la deuxième partie de l'émission, c'est juste après les infos.
Politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Véronique Rigolet.
Mardi politique, deuxième partie, toujours en compagnie du député maire UMP de Nice, Christian Estrosi, ancien ministre et actuel membre de la commission d'enquête sur la surveillance des filières djihadistes, pour vous interroger. Christophe Forcari de Libération, Roselyne Fèvre de France 24. Alors, on le disait en titre de cette émission, l'onde de choc des attentats de Copenhague fait encore l'actualité. Un mois après le carnage à Charlie Hebdo à Paris, la classe politique française n'a pas eu de mot assez fort pour dénoncer ces actes terroristes. Et vous, Christian Estrosi, vous allez même encore plus loin en estimant eh bien, qu'on est carrément rentré dans la Troisième Guerre mondiale.
Oui, je le réaffirme très clairement. Je considère que nous sommes dans la Troisième Guerre mondiale. Alors certes, ça n'est pas une guerre comparable ni de même nature que les deux autres. C'est une guerre où on avance de manière camouflée, où ce sont des lâches derrière des réseaux sociaux, des sortes de cinquième colonne. On aura connu au cours du siècle écoulé le stalinisme. On aura connu le nazisme. Aujourd'hui, c'est l'islamo-fascisme, tout simplement. Lorsque je vois même que M. Valls, d'ailleurs,
Alors que je lance cette formule
chez votre confrère France 5
Marine
dimanche.
Le Pen l'avait lancée avant.
Non, pas formulée comme ça. Elle parlait d'islamo-totalitarisme. Moi, je parle d'islamo-fascisme. Et M. Valls, lundi matin, s'inspire de ce que je porte dans le débat politique et reprend l'islamo-fascisme. Et on est bien dans de l'islamo-fascisme.
Alors justement, j'aimerais que vous nous expliquiez l'islamo-fascisme. En quoi le terrorisme est-il une forme de fascisme? Fascisme faisant nécessairement référence à la Shoah. Est-ce qu'on n'est pas là dans un espèce d'amalgame historique?
D'abord, on ne fait pas l'amalgame entre le fascisme et la Shoah.
Le fascisme en rapporte nécessairement à la Shoah dans l'histoire.
Le franquisme a été du fascisme. Fidel Castro, c'est une sorte quand même de totalitarisme qui s'y associe un peu. C'est pas des démocraties et des modèles de démocratie.
Je vous remercie.
La réalité, c'est que nous sommes dans une vraie forme de totalitarisme. C'est-à-dire que au nom d'une soi-disant religion, ce qui n'est pas le cas, en réalité, on mène une action politique où la femme est un esclave, on veut vous convertir sous menace de vous lapider ou de vous tuer, on coupe des têtes, etc., etc. Donc, aujourd'hui, vous avez dans cette organisation islamo-fascisme que l'on retrouve entre les mains de divers courants qui sont à la fois Al-Qaïda, Daesh, voire le Hamas, je n'ai pas peur de le dire, que ce soit toute forme
de
salafisme ou de wahhabisme, d'accord ? C'est une organisation qui, d'un côté, a une organisation militaire, même un État, l'État islamique.
L'organisation de l'État islamique, oui.
Une bannière où... on a un combat de manière militaire contre eux, nous sommes engagés avec les États-Unis et avec d'autres. Et puis, d'un autre côté, vous voyez, et c'est ce qu'il y a de plus terrifiant, des cinquièmes colonnes rampantes installées dans la plupart de nos démocraties désormais, avec le 7 janvier dernier, avec ce qui vient de se dérouler à Copenhague, et avec malheureusement des menaces partout dans le monde.
Une guerre, ça suppose des lignes de front. Là, on s'aperçoit qu'elles sont extrêmement mouvantes. En France, elles sont où, les lignes de front? Entre des jeunes gens qui viennent de la deuxième ou de la troisième génération d'émigrés et des Français, on va dire, de souche, entre des gens qui habitent dans des quartiers et ceux qui habitent dans des zones de non-droit. C'est ça la ligne de front dans cette Troisième Guerre mondiale, sur le territoire hexagonal?
Par expérience personnelle, vous en avez de partout. J'ai moi-même une cellule de signalement dans ma mairie, et avec un réseau de vidéosurveillance qui m'a permis de démontrer ces deux, trois dernières années aux autorités de l'État, par les mouvements qui s'y déroulent, que dans des caves, des garages, des lieux clandestins, des épiceries dites de nuit, entre guillemets.
Ça n'a pas empêché cet attentat
Non, parce que chaque fois que je porte à la connaissance des services de police ou de justice un certain nombre de faits probants, pas de réaction de la part de l'État.
Concrètement.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, le djihadisme, par exemple, au départ se nourrit de quoi ?
Il a donc attaqué ses policiers à Nice.
Se nourrit de quoi ? Il se nourrit au départ d'une petite délinquance, il se nourrit de petits dealers, puis d'un trafic de drogue, puis de prostitution. Et lorsque on parle de lutte contre le terrorisme, la lutte contre la délinquance en fait partie. Lorsque je vois que en 2014, il y a plus 2% de violence, plus 5% de criminalité, moins 67% d'interpellations d'étrangers en situation irrégulière, moins 17% de patrouilles par rapport à 2013, dites-vous une chose, c'est qu'entre la porosité qu'il y a dans cette délinquance et qui fait que l'on passe de ces trafics, de cette délinquance au djihadisme, quelle que soit son origine, parce que vous avez même des gens d'origine chrétienne qui se retrouvent aujourd'hui enrôlés dans le djihadisme, les infiltrations, vous avez tout simplement un terreau extrêmement favorable que nous avons laissé se générer, ne serait-ce que par la conquête de quartiers de non-droit, qui sont devenus de véritables ghettos.
Vous reprenez le mot d'apartheid employé par Manuel Valls ?
Ah, écoutez, quand il prononce ce mot, je pense que M. Mandela doit se retourner dans sa tombe. Moi, j'ai connu l'apartheid en Afrique du Sud, la souffrance des Noirs par rapport aux Blancs, les tortures. On n'a pas le droit de dire qu'en France, on pratique l'apartheid. On n'a pas le droit de le dire.
Quand vous dites la cinquième colonne, j'aimerais que vous soyez plus explicite. Est-ce que vous pensez qu'il y a une partie des Français qui veulent notre destruction ? Est-ce que c'est ce que vous entendez par cinquième colonne ?
Alors, si vous entendez...
Cinquième colonne qui travaille à
quoi ? Si vous entendez par Français... les frères Kouachi, parce qu'on a répété pendant 5 jours sur toutes les antennes et dans tous les journaux qu'ils étaient français parce qu'ils avaient une carte d'identité française, permettez-moi de vous dire que ceux-là ne sont pas des Français tels que je les conçois. Que pour moi, des Français sont ceux qui adhèrent aux valeurs de la France, de la République, qui défendent son histoire, sa civilisation et son identité. Et qu'une carte d'identité française, si vous êtes un ennemi de la France et si vous vous comportez en ennemi de la France, ne fait pas de vous un Français. Elle doit au contraire vous conduire directement à perdre votre nationalité française.
Donc pour vous, ce sont des Français de papier.
Pardon ?
Donc pour vous, ce sont des Français de papier. Mais l'expression est utilisée.
Donc cette cinquième colonne, c'est
par le Front National. Ouais.
Mais bien évidemment. Vous savez, moi je ne suis plus enfermé dans le politiquement correct depuis bien longtemps. Donc on peut me dénoncer comme étant quelqu'un qui dépasserait certaines lignes, qui ne serait pas politiquement correct parce que je ne resterai pas enfermé dans la pensée unique. Je dis les choses telles qu'elles sont. On a laissé dans notre pays prospérer ces réseaux. Ils sont là aujourd'hui. Ils étaient dormants hier. Aujourd'hui, ils se réveillent. Et malheureusement, ce que nous avons vécu avec cette ignominieuse attaque et massacre par des barbares chez Charlie Hebdo, cet assassinat de policiers ou de juifs dans un commerce cachère, ce sont malheureusement des faits auxquels nous risquons d'être confrontés de nouveau demain, comme le Danemark qui a été confronté hier.
Qu'est-ce qu'on fait justement, Christian Estrosi, face à ce déchaînement de violence ? Est-ce qu'il faut nécessairement agir ? On l'a vu après Copenhague, au niveau européen. Est-ce qu'on ne peut pas agir séparément dans chaque pays de l'Union ?
Non, je demande d'abord, je propose 3 initiatives. La première, c'est qu'il y ait rapidement un G20, sur le terrorisme, où on soit capable de fédérer toutes les énergies de toutes les grandes nations qui doivent mesurer que si elles ne luttent pas ensemble, si elles ne font pas front commun ensemble, plutôt que de se quereller quelquefois, vous savez, je comprends plus rien, moi, à la politique diplomatique de Monsieur Hollande, mais plus rien du tout.
Non, mais la coopération européenne marche pas bien sur cette lutte contre le terrorisme.
Non, elle ne marche pas bien.
Qu'est-ce qui pourrait être amélioré au cours du G20 ?
Non, elle ne marche pas bien, mais lorsque je vois la perméabilité de Schengen, par exemple, c'est un vrai problème, c'est une vraie préoccupation. lorsque vous voyez que ceux auxquels nous avons confié la sécurité de notre pays par leurs frontières extérieures ont leurs frontières qui sont totalement perméables, c'est un vrai problème, cette porosité. Et donc, nous devons remettre ensemble, à plat avec tous les pays de l'Union européenne, les règles de Schengen.
En attendant nos djihadistes,
et puis il n'y a pas que les pays européens. L'Europe, c'est pas que les pays européens. Quand vous voyez ces querelles que l'on se mène avec la Russie, parce que nous n'avons pas été capables, dès le premier jour, il y a plusieurs mois de cela, sur l'affaire de l'Ukraine, par le dialogue, de régler en 24 heures cette affaire, ce qui était possible, et qu'il a fallu qu'on menace de sanctions, qu'on ne livre pas deux Mistral qui avaient été payés, commandés, qui avaient sauvé 600 emplois à la DCN, etc. Et qu'en même temps, aujourd'hui, on propose de vendre des Rafales au Qatar. Vous comprenez quelque chose, vous, à ça ? Non mais, est-ce que vous comprenez qu'on puisse ne pas livrer deux Mistral à la Russie et qu'on dise au Qatar, on est prêt à vous vendre des appareils Rafale? Est-ce que vous comprenez quelque chose dans la politique de la diplomatie française pour faire face à la lutte contre le terrorisme et l'islamofascisme?
C'est pas de la diplomatie, c'est de la diplomatie économique.
Oui, j'ai du mal à comprendre.
Revenons,
on met en difficulté la Russie, qui est un allié dans la lutte contre le terrorisme, pour nous quand même, parce que la Russie a dû faire face et continue à faire face quand même à des menaces importantes. Quand la France est le seul pays aujourd'hui à dire dans cette lutte internationale où on doit faire front commun, on est d'accord pour faire ce front commun avec tout le monde, sauf avec Monsieur Bachar el-Assad en Syrie. Il n'y a que la France qui dit ça. Vous le comprenez ? Est-ce que vous comprenez que la France soit la seule à refuser ce que tout le monde admet aujourd'hui, c'est que pour faire face à l'État islamique, il faut bien s'appuyer sur celui en Syrie qui est le mieux placé pour nous aider à faire face à l'État islamique.
Est-ce que c'était fondé sous la présidence de Nicolas Sarkozy d'aller aider les insurgés contre le régime de Kadhafi? Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, est-ce qu'en fait on n'a pas enfanté un monstre?
Le problème, c'est qu'on n'a pas prolongé ensuite avec le gouvernement de Monsieur Hollande ce que nous avions commencé à mettre en place comme esprit de démocratie. Je me réjouis de voir qu'en Tunisie c'est la démocratie qui l'a emporté. Je m'en réjouis de voir que au Maroc, qui est un allié historique, un partenaire, les choses sont solides aujourd'hui, que même avec l'Algérie, nous avons une coopération de grande qualité, et que nous avons avec l'Égypte d'aujourd'hui, qui a su heureusement se ressaisir, un partenaire de qualité. Mais je vous pose une autre question. Comment comprendre, alors que nous avons avec Israël un ennemi commun qui s'appelle le Hamas ou qui s'appelle le Djihad? C'est les mêmes, exactement les mêmes. Hamas, Djihad, Daesh, ce sont les mêmes. Et on va donner des leçons à M. Netanyahou et on va voter une résolution au Parlement français pour décider de manière unilatérale qu'il faudrait créer un État palestinien. Vous pensez pas qu'on a mieux à faire à mener ensemble avec Israël, avec la Russie, avec tous nos partenaires, avec les Américains, le même combat contre le terrorisme,
plutôt que d'aller mettre
en difficulté nos amitiés et nos alliés depuis toujours.
Monsieur Estrosi, vous trouvez qu'il faudrait avoir plus de complaisance envers Poutine?
Je sens
ça un peu dans votre discours.
Ça n'est pas de la complaisance, mais moi je relève une chose, c'est que lorsque nous étions au pire de notre crise économique et industrielle entre 2008 et 2012, Monsieur Poutine a eu une attitude extrêmement constructive pour nous aider. Là où tout se passait bien, où le rouble prospérait en Russie,
il a fait le choix. Il est moins constructif sur l'Ukraine aujourd'hui.
Il a fait le choix. Il a fait le choix de la technologie française pour l'armement.
Donc vous défendez Poutine.
Il a fait le choix d'une alliance dans le domaine automobile où on était en quasi faillite, par l'alliance entre Renault et Avtovaz. Il a fait le choix de l'industrie nucléaire civile française. Et la liste est longue des accords que nous avons passés.
Je pense simplement d'envahir en partie l'Ukraine.
Je pense simplement que dès le premier jour, on pouvait tout éviter. Je vous rappelle simplement qu'en 24 heures, Nicolas Sarkozy, en allant voir Monsieur Poutine à Moscou, a évité un bain de sang en Géorgie. Monsieur Hollande ne pouvait-il pas agir de la même manière ?
Je vais vous poser une question précise justement. Il s'agit de savoir maintenant s'il faut former une coalition pour intervenir dans le cadre de cette troisième guerre mondiale contre Daesh en Libye. Est-ce que la France doit prendre part à cette coalition qui semble se mettre en œuvre pour intervenir éventuellement en Libye ?
La France doit prendre toute sa place avec tous ses partenaires internationaux. Tous ses partenaires internationaux.
On doit intervenir en Libye dans le cadre d'une coalition.
Et arrêter d'être à la remorque. De toute façon, on est toujours à la remorque de tout le monde.
Non, mais je vous demande.
Quand je vois aujourd'hui...
On l'était pas au Mali.
Monsieur Hollande qui court après Madame Merkel pour donner le sentiment que plusieurs mois plus tard, il apporterait une contribution au règlement du problème en Ukraine... Je me réjouis qu'enfin la France prenne une position.
Oubliez l'Ukraine, là on parle de la Libye, et ça va se décider peut-être dans les prochaines semaines.
Je souhaite que nous ayons un accord global avec nos partenaires internationaux. On peut pas mener la guerre au terrorisme, à l'islamo-fascisme, comme je le dis, dans cette grande guerre qui malheureusement ne durera pas 2 semaines, 15 jours, 3 semaines, 6 mois, mais risque de durer une dizaine d'années sans regarder nos alliés historiques, nos amis de toujours, pour essayer de définir des règles communes avec eux. Mais voilà. En même temps, il faut régler le problème en France, hein.
Oui, c'est pas
avec un garde des Sceaux, Madame Taubira, qui veut la prison pour personne, qu'on va régler le problème en France, hein.
C'est aussi la faute à la garde des Sceaux. Il faut une réforme la politique pénale en France, elle est pas assez dure envers.
Lorsque vous accordez des peines de probation pour ceux qui sont condamnés à 5 ans d'emprisonnement, lorsque vous supprimez les peines planchers, vous croyez que ce sont des moyens efficaces qu'on donne aux services de police français pour lutter aussi contre les phénomènes djihadistes? Vous savez très bien qu'à Nice, j'ai connu un militaire qui, il y a 15 jours très exactement, a été agressé par un Moussa Koulibaly.
Absolument.
À l'arme blanche.
J'y fais référence.
D'accord.
Tout à l'heure.
Vous connaissez le parcours de ce personnage qui est issu de cet individu qui est issu de Mantes-la-Jolie, qui avait jamais mis les pieds à Nice. Et il était repéré par les services de la DGSI depuis longtemps. Il a été condamné pour multiples faits de délinquance. Il a été signalé aux autorités turques comme ayant pris un avion pour la Turquie. Les autorités turques l'ont renvoyé en France. Il a été pris en main le 28 janvier par la DGSI, puis relâché immédiatement, parce que comme il a expliqué qu'il n'allait en Turquie que pour faire du tourisme, et que forcément, il n'y avait aucun critère qui permette de qualifier un délit pour le retenir, eh bien, la DGSI a été obligée de le relâcher. Et tout en le suivant, traçabilité, deux jours plus tard, il tente d'égorger un militaire français dans les rues de Nice. Ça montre bien que dans notre arsenal juridique et dans notre chaîne pénale, il y a un vide quelque part qu'il faut combler.
Il y a des failles, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Eh bien,
il faut des mesures d'exception.
On est d'accord avec le gouvernement, on part faire le djihad en Syrie. Il faut qu'on enferme et qu'on mette à l'isolement au retour. Et je dis bien à l'isolement, et j'attends toujours que les grandes déclarations de M. Valls, qui remontent au 13 janvier dernier à l'Assemblée nationale, et que j'ai applaudi dès demain, soient enfin mises en œuvre à cet égard. C'est toujours pas le cas aujourd'hui. Mais d'un autre côté, pour ceux qui ne partent pas faire le djihad, et pour lesquels on ne peut pas qualifier un délit, comme ce fameux Koulibaly, j'ai déposé une proposition de loi qui fasse qu'on comble ce vide juridique par le simple fait que dès lors qu'il est en communication avec le djihad par des réseaux internet, ça suffise à qualifier le délit pour pouvoir le mettre à l'isolement et le mettre hors d'état de nuire.
Ça, c'est l'urgence.
C'est l'urgence.
C'est la fin de Mardi Politique réalisé par Mathias Golshani. Merci Christian Estrosi d'être passé à RFI. Merci à nos partenaires France 24 et Libération, Roselyne Fèvre, Christophe Forcari. Rendez-vous à tous la semaine prochaine.